Galaxy, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, cette émission, comme la suivante, aura comme titre Noël dans la tradition liturgique byzantine, sujet que nous vous présentons en compagnie d'André Loski, professeur de théologie liturgique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. André Loski, bien que fortement déchristianisé, la société d'aujourd'hui fête Noël dans son ensemble. En effet, tout concourt autour de nous à nous rappeler l'imminence de cette fête, dont le caractère commercial prend de plus en plus le pas sur le côté traditionnellement religieux. Mais il faut, je crois, souligner un phénomène de société très intéressant, à savoir l'impact de cette fête sur le monde qui nous entoure et le message de paix et d'espérance qu'elle apporte à tous, chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs, manifesté par toutes sortes d'actions caritatives et d'élan humanitaire. Mais vous êtes bien sûr là pour commenter avec nous Noël, c'est-à-dire la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ dans la tradition chrétienne et plus spécifiquement byzantine orthodoxe.
Effectivement, la fête de Noël est un événement que chacun à sa manière fête, des chrétiens, des personnes indifférentes ou des personnes incroyantes. Il y en a qui ne le fêtent pas du tout. Mais parmi les non-chrétiens, il y a des personnes qui célèbrent Noël et qui, en quelque sorte, veulent aussi partager quelque chose. Et en réponse à une situation qui, en France, est extrêmement diversifiée par rapport à cet événement, je vous propose de réfléchir ensemble sur ce que nous apprend spécifiquement la liturgie orthodoxe byzantine et d'une manière un peu plus élargie, la tradition orthodoxe en sa forme byzantine sur cette fête de Noël qui est avant tout une célébration de l'incarnation du Christ, le Dieu devenu homme. Et pour commencer, je vous propose de vous citer et commenter une certaine hymne qui récapitule l'événement. Donc je cite, « La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, ou littéralement celui qui est au-delà de l'être, et la terre offre une grotte à l'inaccessible, les anges et les pasteurs le louent, et les mages avec l'étoile s'avancent, car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu d'avant les siècles. »
C'est le condacium de la fête.
C'est ce qu'on appelle le condacium, oui.
Je vous propose de l'écouter pour commencer, et on est vraiment dans la tradition byzantine ici. C'est le chœur byzantin de Grèce dirigé par Lycourgos Angelopoulos. Non, nous savons que les textes liturgiques constituent des supports théologiques merveilleux. C'est le cas ici et je vous prie de commenter ce texte.
Alors, très brièvement, on a ici une énumération un petit peu détaillée des principaux personnages et on a l'essentiel de l'événement de Noël. Je précise que la petite strophe que j'ai citée en traduction française et qu'on a entendue chanter en langue grecque est le début d'un long poème composé au VIe siècle par Saint Romanos le Mélode et que les Byzantins, les orthodoxes chantent toujours dans différentes langues d'ailleurs, pas seulement en grec. Et là on a une strophe très proche des récits évangéliques, c'est-à-dire qu'on a à la fois les mages, les pasteurs, les anges, la Vierge elle-même qui met au monde, alors on ne dit pas simplement un enfant comme les autres, mais celui qui est appelé le Dieu d'avant les siècles, le Dieu qui est au-dessus de l'être, littéralement. Et cette strophe est très proche du récit des évangiles, moyennant cette interprétation qui fait de celui qui est né le Dieu homme, et qui est une des grandes constantes, d'ailleurs, de cet office de Noël byzantin. Et également, cette strophe est très proche de la représentation iconographique de la fête de Noël, où l'on retrouve aussi les éléments cosmiques comme la grotte, l'étoile, et puis les personnages, donc la Vierge, les pasteurs, les anges et les mages. Et la confrontation entre d'une part l'icône et d'autre part les textes bibliques et ici liturgiques est tout à fait éclairante, tant elle est convergente, mais déjà avec quelques éléments théologiques interprétatifs, et on va en trouver d'autres.
Je vous remercie beaucoup de faire le rapprochement avec l'icône, parce que l'icône est l'autre support théologique très important dans notre tradition. Et très souvent, nous allons vénérer les icônes dans les églises et on oublie de regarder vraiment et de penser au sens de chacune des icônes et de la fête donc qu'elle représente. Et il faut dire aussi que l'événement de l'incarnation, c'est-à-dire celui de la nativité, est le fondement théologique même de l'icône. Tout cet art iconographique qu'on connaît, toute cette théologie de l'icône est fondée sur l'événement de l'incarnation. Donc la fête de Noël est par excellence celle qui justifie l'icône dans l'Église.
Par l'incarnation, Dieu s'est rendu visible, puisque nous confessons, il va en être question dans d'autres textes, que ce petit enfant n'est autre que le Dieu d'avant les siècles, Dieu et homme à la fois et de toute éternité. Et par son incarnation, il s'est rendu visible aux hommes. Et donc, à partir du moment où il s'est rendu visible, nous sommes en quelque sorte autorisés à le représenter.
Visible et matériel en même temps, la matière. Jean Damasien dit ça, ne méprisez pas la matière parce que Dieu est devenu matière. C'est très important. Alors, c'est une parenthèse, mais évidemment, c'est un sujet extrêmement important pour ne pas l'évoquer. Alors, évidemment, vous avez parlé tout à l'heure de l'Évangile, donc l'Écriture. Puis il y a des textes patristiques également qui commentent. Nous savons à quel point les commentaires des pères sont importants dans notre tradition. Que proposez-vous comme lecture ?
Alors nous avons, parmi bien d'autres exemples, il me plaît de citer une homélie, c'est le discours numéro 38 de Saint Grégoire le théologien, Saint Grégoire de Nazianze, qui a beaucoup influencé, pas seulement pour la fête de Noël, les hymnes que chantent aujourd'hui les églises orthodoxes. Je cite maintenant Saint Grégoire le théologien. Le Christ naît, glorifiez-le. Le Christ descend des cieux, allez à sa rencontre. Le Christ est sur terre, élevez-vous. Chantez au Seigneur terre entière. Et pour le dire d'une seule fois, joie au ciel, exulte la terre. Le Christ céleste est venu parmi les hommes. Voilà Saint Grégoire. Et Saint Cosmas de Mayuma, un de nos célèbres hymnographes, quelques siècles après, a repris le début de cette homélie et d'autres passages pour en faire ce que l'on appelle l'Irmos, qui commence le canon des matines, l'un des canons des matines. Et je cite maintenant l'hymne que nous chantons. Le Christ vient au monde, glorifiez-le. Le Christ descend des cieux, allez à sa rencontre. Sur terre, voici le Christ, élevez-vous. Terre entière, chante pour le Seigneur. Peuple, louez-le dans l'allégresse, car il s'est couvert de gloire.
Alors, là aussi, il faut souligner le fait que très souvent dans l'Église, on ne fait pas assez attention au texte. Là, vous venez de lire un texte qui vient d'un très grand-père, Grégoire, repris par Saint Cosmas, que nous chantons pendant toute cette période qui précède Noël, au matin, et la plupart du temps, on ne pense pas à analyser le fond de ce texte. Vous avez parlé de Irmos, c'est le début du canon, on l'appelle également Katavasia, dans la tradition plutôt byzantine grecque. Alors, puisque nous restons aujourd'hui musicalement dans cette tradition, nous allons l'écouter, c'est le début donc des Katavasies, toujours par le chœur byzantin de Grèce, dirigé par Nikolaos Angelopoulos. vous prie maintenant de commenter donc ce texte très profond sur le plan dogmatique.
Oui, en fait, il y a d'abord une grande convergence entre l'homéliste et l'hymnographe. On a d'autres exemples de cela dans la tradition liturgique. C'est important de remarquer à quel point la tradition liturgique, vous avez dit, je vais aller plus loin, que nous annonçons quelquefois quand nous sommes des chantres inattentifs, mais il faut faire attention aux formules que nous portons. Finalement, la fonction du chantre, elle est aussi la fonction d'un porte-parole des richesses de l'Église et des richesses théologiques. Et ici, alors je reprends Saint Grégoire le théologien, qui montre comment le Christ, en fait, surmonte par sa descente sur la terre l'antinomie entre ciel et terre. Son abaissement signifie notre élévation. C'est un échange entre Dieu et l'homme, puisque le Christ, en venant sur terre, est venu combler cette distance entre Dieu et l'homme. La distance, c'est énorme, puisque c'est une distance entre le Créateur et sa créature. Et donc, par son antinomie, Saint Grégoire le théologien, dans un autre passage, nous dit que le Christ s'est fait créature, ce qui peut sembler un petit peu surprenant. Et donc, le Christ, je répète, est venu combler ce fossé, et ceci avec aucun autre motif que son amour infini pour l'homme et pour sa créature en général. Et il y a d'autres textes qui insistent, alors toujours dans le même sens. Je cite un autre passage de Saint Grégoire, non repris directement par les hymnes, mais qui les a tout de même inspirés. Le Verbe prend une épaisseur, l'invisible se laisse voir, l'intangible devient palpable, l'intemporel entre dans le temps. Le Fils de Dieu devient le Fils de l'homme. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, et il le sera à jamais. La dernière partie de ce passage est une citation de l'Épître aux Hébreux, et qui peut-être indirectement a inspiré certaines expressions que l'on chante dès le début de l'office de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre au soir. Par exemple, le Christ est appelé l'icône immuable du Verbe divin, l'empreinte de son éternité, le Dieu véritable qui demeure ce qu'il était, en assumant ce qui lui était étranger. Le règne du Christ est un règne pour les siècles. Je paraphrase un petit peu les hymnes liturgiques ici. Son empire est pour les âges des âges. Voilà des expressions ou des qualifications qui montrent que, si on revient au premier texte que nous avons commenté tout à l'heure, où les bergers et les mages, chacun de leur côté, sont venus adorer un nourrisson qui reposait dans une grotte, mais rien d'extérieur ne signifiait que ce nourrisson est Dieu et homme à la fois. C'est ce que confesse l'Église. Sur l'icône, nous le représentons avec les attributs christologiques divins, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nimbe cruciforme. On met une croix dans son nimbe, et déjà, il est tout auréolé de lumière. C'est une manière conventionnelle, iconographique byzantine, de représenter la sainteté. Et le Christ devenu homme est le seul saint. Eh bien, ce petit nourrisson que les personnes qui l'entouraient sont venues adorer, ils sont venus l'adorer parce qu'ils avaient conscience que sous les traits de ce nourrisson leur apparaît le Dieu d'avant les siècles, donc celui qui existe bien avant sa naissance corporelle, celui qui est auprès du Verbe, celui dont l'évangéliste Jean nous dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu ». Voilà celui qui apparaît maintenant visiblement couché dans la crèche. Et voilà ce que disent les textes.
Vous avez parlé de Saint Grégoire, de commentaires donc, faits par un père de l'Église, un des pères cappadociens. Mais l'événement est annoncé déjà dans des textes de l'Ancien Testament. Il est commenté dans l'Évangile. Qu'en est-il de la présence de ce texte dans la liturgie?
Alors, dans l'office de Vêpres, célébré le 24 décembre au soir, normalement, la tradition liturgique propose un certain nombre de lectures de l'Ancien Testament. Il faut préciser d'abord que pour la plupart de nos fêtes liturgiques byzantines, le choix proposé par le calendrier, et nous avons des lectionnaires depuis déjà assez longtemps, on en a des traces à partir de la période post-iconoclaste, c'est-à-dire le 8e, 9e siècle. Ce qui s'est passé avant en termes de lecture biblique, on ne le sait pas exactement, mais enfin voilà, pour dire un mot sur l'histoire de nos lectionnaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que la liturgie byzantine ne lit que à peu près 10 à 15% de l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je dis maintenant est valable pour toutes les fêtes, c'est comment a-t-elle fait le choix ? Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas intéressant dans l'Ancien Testament. Aucun chrétien orthodoxe et aucun chrétien en général n'est dispensé de lire la Bible, et en tout cas pas l'Ancien Testament. Ce serait un autre débat. Mais, si je reviens à l'office de Noël, on peut constater que le choix des lectures privilégie spécialement une lecture typologique et messianique de la venue du Christ. Ainsi, on a la prophétie de Balaam, on a le prophète Michée, on a aussi, par exemple, le prophète Isaïe. Là, ça vaut la peine de s'arrêter un petit peu, parce que, vous savez, dans le chapitre 7 d'Isaïe, le prophète s'adresse au roi Achaz et lui dit « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe ». Et selon la version grecque de la Septante, le signe, c'est « La Vierge enfantera un fils ». D'autres traductions disent « La jeune femme » et appliquent l'événement à la femme du roi Achaz, donc à un événement strictement historique, qui s'est effectivement produit au temps du roi Achaz. Son épouse a enfanté un fils, donc devenu descendant du roi Achaz. Mais ça, c'est l'histoire d'Israël qui a suivi son cours. Mais à travers cet événement historique immédiat, le prophète visait un autre événement. C'est ce qu'ont compris les traducteurs de la Septante en disant « la Vierge ». Et il annonçait, d'une manière encore voilée, la naissance virginale qui allait être celle du Fils de Dieu. Fils de la Vierge par sa mère, et Fils de Dieu, bien sûr, par son Père, donc Dieu de toute éternité. Et donc, ainsi, la prophétie d'Isaïe, qui est lue à l'office de Noël, annonce la naissance du Christ. Et la plupart des autres lectures de l'Ancien Testament choisissent des passages messianiques. Donc la liturgie byzantine propose une lecture particulière de l'Ancien Testament, une certaine école d'interprétation.
Et à part les lectures de l'Ancien Testament dont vous avez parlé, d'ailleurs, c'est, je crois, un conseil à donner à ceux qui vont à l'église ou qui vont aller à l'église, c'est de lire l'office avant. C'est une très bonne chose, je crois, parce que parfois pendant l'office, d'abord on a pas très souvent le texte devant soi, première chose. Et deuxième chose, très souvent, on perd. On peut pas, d'ailleurs, un office n'est pas un cours. Alors, il vaut mieux préparer. Je crois que c'est une très bonne chose pour les enfants aussi, de manière très simple, bien sûr. Mais pour nous aussi, toujours une lecture avant des textes scripturaires et éventuellement d'un texte patristique, comme vous avez proposé tout à l'heure, peut aider beaucoup à la compréhension et à la réception de l'office.
Oui, en fonction des disponibilités de chacune et de chacun, effectivement, il vaut la peine de se préparer chacun à sa manière, je reste très général, mais je retiens votre formule que l'office n'est pas un cours. Et effectivement, il y a au moins deux dimensions dans ce qu'on appelle l'action liturgique. L'action liturgique ou l'événement liturgique, le fait de célébrer religieusement l'événement de l'incarnation, n'est pas d'abord une information sur l'événement. Si on veut s'informer, on a des livres pour ça, et il vaut mieux le faire en différé. Ou, en d'autres termes, si je compte sur la célébration uniquement pour m'informer, je vais rester sur une dimension un petit peu réductrice. C'est-à-dire que la dimension catéchétique de l'office, elle existe, et il ne faut surtout pas la nier. Et c'est notre devoir à toutes les personnes qui sont chargées du déroulement de l'office, de chanter d'une manière articulée si on est chantre, de choisir une bonne traduction lorsque l'office est en langue française. Ici, nous sommes en France, et il est important de faire attention à la compréhension. D'ailleurs, même si on célèbre dans une autre langue, on a eu des exemples en grec, il est important que ce soit bien articulé, parce que chaque mot peut être important. Mais la célébration, le mot dit bien ce qu'il veut dire, est avant tout célébration. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de comprendre, loin de là. Nous célébrons un culte qui est en fonction de la raison, c'est-à-dire que c'est le logos qui habite chaque mot. Les offices ont un message théologique, et lorsque nous nous préparons à l'office, il vaut la peine de le faire par des lectures, effectivement, soit en consultant un calendrier et regarder au moins quelques lectures de l'Ancien Testament et essayer de se poser la question en dehors de l'office, pourquoi tel texte a été choisi. Et ensuite, lorsqu'on arrive à l'office, on est toujours gagnant, parce que même si on n'est pas tout à fait attentif et qu'on ne fait pas, on n'entend pas tous les mots, peut-être parce que c'est trop loin, mais plus on aura préparé, mieux on va profiter de l'événement, cette fois-ci, qui est une actualisation. C'est-à-dire que si je reprends la prophétie d'Isaïe, lire dans sa chambre la Vierge enfante un fils n'est pas équivalent à entendre cette prophétie d'Isaïe proclamée dans le cadre de l'assemblée liturgique. Parce que, à ce moment-là, si j'ose dire, dans l'assemblée liturgique, l'Esprit Saint se mêle de l'événement et nous rend présents les événements. Et à ce moment-là, nous devenons véritablement des témoins de cette incarnation. Et à ce moment-là, ce n'est plus simplement une information cérébrale, mais qui est nécessaire aussi pour mieux se préparer, pour mieux vivre l'office. Mais ensuite, l'action liturgique vient compléter cette préparation du terrain.
Revenons à l'office, si vous voulez bien, au Katavasis, les Irmi, le début de la huitième ode. Encore un texte très profond sur le plan théologique, qui fait allusion à un événement, ou plutôt à une histoire donnée par l'Ancien Testament, évidemment, et qui sert ici de prétexte, si vous voulez, pour que l'événement de Noël soit analysé.
Effectivement, le canon des Matines se compose d'un certain nombre de strophes. Je suis toujours dans les strophes composées par Saint Cosmas de Mayuma, qui est un excellent hymnographe et théologien en même temps. Et ce canon des Matines repose sur un certain nombre de cantiques bibliques, donc vétérotestamentaires, enfin sauf les deux derniers qui sont du Nouveau Testament. Je ne fais pas maintenant la structure des Matines, mais je voudrais relever le fait que cette Irmos 8, ou cette Katavasia numéro 8, s'inspire de l'événement des trois adolescents dans la fournaise. Dans le prophète Daniel, chapitre 3, version des Septante, toujours, c'est celle qu'utilise traditionnellement l'Église orthodoxe, avec des choix intentionnellement messianiques dans la traduction même du texte, de l'hébreu vers le grec. Et ici, donc, sous le règne du roi Nabuchodonosor, trois adolescents ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant une statue qui était une idole, et eux adoraient Dieu seul. Et cet événement, pratiquement à chaque office de matine de l'année byzantine, est commenté d'une façon ou d'une autre. Et ici, il est commenté dans le sens de l'incarnation. Alors je lis maintenant. « La fournaise qui distille la rosée préfigure la merveille où la nature est dépassée, car les jeunes gens qu'elle a reçus, elle se garda de les brûler. De la même façon, le feu de la divinité habita le sein de la Vierge sans le consumer. » Aussi chantons joyeusement que la création entière bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. La plupart des strophes de cette huitième ode empruntent le refrain biblique qui est « Chantez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles » ou à peu près. Et ici, on a un parallèle très frappant, c'est même assez rare de l'avoir de cette façon-là. C'est le parallèle entre les adolescents, les trois jeunes gens dans la fournaise qui, une fois dans la fournaise, ont été préservés d'être consumés. Ils ont été préservés miraculeusement par Dieu. C'est ce que raconte le récit du prophète Daniel au chapitre 3. Et c'est pour ça qu'on parle de rosée. Ils ont été rafraîchis par une rosée surnaturelle et miraculeuse. Et de la même façon, il y a un parallèle avec le feu de la divinité qui, lorsqu'il est descendu dans la mère de Dieu, donc c'est le Fils de Dieu devenu homme, la mère de Dieu a consenti à lui prêter son sein pour le concevoir d'une manière humaine, pour lui donner sa chair humaine. Mais bien que ce soit Dieu en personne qui soit descendu dans le sein de la Vierge pour se former en elle comme tous les hommes, ce feu n'a pas consumé, ce feu est venu habiter un sein humain, mais sans le consumer. Et donc cette strophe répète cela très fortement. Et bon, il y a d'autres hymnes qui vont un petit peu dans le même sens, qui continuent à faire ce parallèle entre le feu de la fournaise qui préserve les adolescents et le feu de la divinité qui ne consume pas la mère de Dieu et qui, une fois venu habiter sur terre, puisque la mère de Dieu l'a enfanté et il a vécu sur terre pendant plus de 30 ans, de la même façon, il n'a pas consumé ceux qui l'ont côtoyé. Et on peut encore continuer avec le miracle de l'Eucharistie, sur lequel insistent beaucoup les saints-pères. Lorsqu'un chrétien aujourd'hui participe au corps et au sang du Christ, de la même façon, il n'est pas consumé par ce feu. Ce n'est plus les traits du nourrisson, mais c'est sous la forme du pain et du vin qu'il vient à nous. Mais il vient à nous d'une manière en quelque sorte aussi profonde et aussi intime par la communion qu'il est venu dans le sein de la Mère de Dieu au moment de l'incarnation. Et ainsi, c'est grâce à l'incarnation, grâce à l'événement que nous fêtons au moment de la fête de Noël, qu'est possible notre participation à Dieu, spécialement par l'Eucharistie.
André Loschi, avant de nous séparer pour cette première émission, un mot peut-être pour conseiller à nos auditeurs les lectures. Vous avez parlé du discours 38 de Saint-Grégoire. On le trouve, je crois, dans la collection des sources chrétiennes.
Sources chrétiennes, tout simplement, édition du Cerf, oui, c'est assez accessible, oui. Et puis il y a d'autres homélies dont je ne me suis pas inspiré directement aujourd'hui, mais on peut citer une homélie sur la nativité de Saint Jean Chrysostome, une homélie sur la nativité aussi de Saint Grégoire de Nice, le même discours 38. Tout cela se trouve dans un petit volume publié chez Grasset. Malheureusement, il y a assez longtemps, je crois qu'il est épuisé, mais enfin, ça s'appelle « Le mystère de Noël ». On doit pouvoir encore le trouver dans des bibliothèques ou chez des bouquinistes. Et sinon, on peut également mentionner un livre qui contient des extraits de certaines de ces homélies. C'est dans les éditions Migne, un livre qui est encore tout à fait accessible et qui s'appelle « L'année en fête ». Et qui contient, parmi d'autres homélies, aussi quelques homélies sur Noël, d'Orient et d'Occident d'ailleurs, c'est intéressant. Moi je me suis concentré un peu sur les orientaux, mais évidemment les livres en disent beaucoup plus.
Merci beaucoup, c'était donc notre première émission sur la fête de Noël dans la tradition liturgique byzantine. Nous allons continuer au cours de notre prochaine émission, le dimanche 24 décembre, où nous écouterons également le message de Noël du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargé de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Pierre Mine. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Sedex 16. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission sur le site franceculture.com.